Chapitre 11. Les figurines de porcelaine fascinaient Ali. Elle en prit une fillette en tutu bleu ciel, qu'elle examina sous tous les angles.
« Regarde, Benji, » dit-elle à son frère, « c'est quelqu'un qui a fait ça tout seul. »
« Ce n'est qu'une copie, » précisa le boutiquier, « mais un artiste a fait l'original dont on a pris une empreinte informatique. Les méthodes de reproduction sont si précises que même un expert aurait des difficultés à les différencier. »
« Tout cela est à vous ?»
demanda Ali en désignant la centaine de personnages mis en montre sur le comptoir et dans des vitrines.
« En effet, » répondit fièrement Monsieur Murillo. « Avec ma femme, nous avions un petit commerce à Séville. Nous sommes tombés amoureux de la porcelaine il y a une dizaine d'années et je suis devenu un fervent collectionneur. »
Madame Murillo, une femme qui approchait de la cinquantaine, sortit de l'arrière-boutique.
Nous avions décidé d'emporter notre collection, même s'il nous fallait pour cela renoncer à nos autres bagages.
Benji, qui tenait la danseuse à quelques centimètres de ses yeux, fit un large sourire et déclara
« Jolie !»«
Merci !» répondit Monsieur Murillo. « Nous pensions fonder sur Mars une association de collectionneurs. D'autres passagers de la Niña ont la même passion que nous. »«
Pouvons-nous les regarder ?»
demanda Ali.
Faites comme chez vous, lui dit Madame Murillo. Une fois installés, nous vendrons ou échangerons certains de ces objets, ceux que nous avons en double. Pour l'instant, nous les exposons afin que tous puissent les admirer.
Pendant qu'Ali et Benji s'intéressaient aux figurines de porcelaine, des badauds entrèrent. Les Murillo n'avaient ouvert boutique que 2 jours plus tôt. Ils vendaient des bougies, des napperons fantaisie et autres bibelots.
Vous n'avez pas perdu de temps, Carlos,
dit un Américain bourru à Monsieur Murillo.
C'est plus rapide quand on n'a pas d'enfants, Travis.
Nous avons choisi de vivre dans ce village, mais nous n'arrivons pas à trouver une maison qui convienne à la fois à Chelsea et aux gosses. Il faut dire que ma femme a très peur. Elle ne croit pas que l'AIC nous ait dit toute la vérité.
Je n'arrive pas à admettre que des extraterrestres ont pu construire une pareille station spatiale dans le seul but de nous observer. Mais pourquoi les responsables de l'AIC nous mèneraient-ils en bateau?
Ils l'ont déjà fait au sujet de notre mission. Chelsea est certaine qu'ils font une expérience et comptent nous laisser ici quelque temps avant de nous transférer sur Mars pour comparer 2 modèles de colonies.
Votre épouse ne changera donc jamais, dit Monsieur Murillo en riant. « Notez bien que nous avons eu des doutes, nous aussi. Il n'y a pas un seul extraterrestre, mais ce n'est pas une raison suffisante pour conclure que l'AIC a menti. Si c'était un mensonge, ils auraient opté pour une histoire moins abracadabrante, et j'ai trouvé cette Wakefield très convaincante. Lors de la réunion, elle a répondu à toutes nos questions sans jamais se contredire.
« Je ne crois pas qu'il soit possible de dormir pendant 12 années d'affilée, »
fit Travis en secouant la tête.
« Moi non plus, mais nous avons visité le somnarium. Au fait, avez-vous remarqué qu'il est immense et qu'il contient assez de sarcophages pour tous nous recevoir ?»« Non, l'AIC n'aurait pas fait construire une pareille installation uniquement pour apporter un semblant de véracité à une fable inventée de toutes pièces. »«
Vous devez avoir raison. »«
En tout cas, nous ne pouvons pas nous plaindre de nos conditions d'existence. » Nous sommes très satisfaits du Lincoln qui nous aide à tenir la maison et le magasin. »
Ali les écoutait avec attention. Elle se rappelait les propos que sa mère lui avait tenus lorsqu'elle avait sollicité la permission d'aller se promener avec son frère.
« Naturellement, ma chérie. Mais si on vous reconnaît, ne répondez pas aux questions et rentrez immédiatement à la maison. Macmillan ne veut pas que nous parlions de ce que nous avons vécu aux colons. »
Plongé dans la contemplation des porcelaines, Ali ne remarqua pas que Benji s'était éloigné. Lorsqu'elle s'en rendit compte, la panique la saisit.
« Que regardes-tu, mon gars ?»
demanda sèchement une voix masculine.
« Ses cheveux, ils sont jolis, »
expliqua Benji. Il gênait le passage d'un couple qui désirait sortir. En souriant, Il tendit la main pour caresser la longue chevelure blonde de la femme.
« Je peux toucher ?»«
Ça va pas la tête. Écarte-toi de... » »«
Il n'a pas l'air normal, Jason. »
Ali se plaça à côté de son frère. L'homme bouillait de colère et elle était désemparée.
« Regarde, Ali. Regarde ses jolis cheveux jaunes.
Tu connais ce débile ?»
Sans qui le nommer Jason ?«
Benji est mon frère. »
« Alors emmène-le loin d'ici. Il embête ma femme. »
« Il ne lui veut pas de mal, monsieur. C'est la première fois qu'il voit des cheveux blonds.
Quoi ?»
s'emporta Jason avant de s'adresser à son épouse.
« Qu'est-ce que c'est que ces mômes ? Un taré ? N'êtes-vous pas les enfants Wakefield ?»
demanda une voix féminine. Ali se tourna vers Madame Murillo, qui venait s'interposer entre eux et le couple.
« C'est exact, madame.
Vous voulez parler de ces gosses qui viennent d'une autre étoile ?»
fit Jason. Ali entraînait Benji vers la porte du magasin.
« Nous regrettons ce qui s'est passé. Nous ne voulions pas provoquer un incident. »«
Monstre !»
entendit-elle crier quand le battant se referma derrière eux. Au terme de cette journée épuisante, Nicole alla dans la salle de bain pour se rafraîchir le visage. Ali et Benji ont vécu une expérience assez pénible dans le village, lui dit Richard depuis la chambre. Elle avait consacré de longues heures à renseigner les passagers de la Niña. Tous étaient mécontents et certains avaient perdu leur calme quand elle leur avait expliqué les procédures d'attribution de la nourriture, des logements et des emplois. Elle avait du sommeil à rattraper, ce que confirmaient des poches sous ses yeux.
« Mais tout doit être terminé avant l'arrivée de la Santa Maria, »
se dit-elle.
« Ce sont les ex-détenus qui nous poseront le plus de problèmes. »
Elle s'essuya le visage et ressortit de la salle de bain.
« Et pour toi, ça s'est passé comment ?»
demanda-t-elle à Richard.
« La journée a été intéressante. Les ingénieurs commencent à se sentir un peu plus à leur aise avec les Einstein. As-tu entendu ce que j'ai dit au sujet d'Ali et de Benji ?»
Elle soupira. La voix de son mari contenait un message. Elle fit abstraction de sa lassitude et alla dans le couloir. Ali dormait, mais Benji était toujours éveillé dans la chambre qu'il partageait avec Patrick. Nicole s'assit près de lui et prit sa main.
« Bonsoir, maman.
Oncle Richard m'a dit que tu étais allé au village avec Ali. »
Son fils grimaça, mais ce fut bref.
« Oui, maman.
Ali m'a expliqué que des colons les avaient reconnus et insultés. »
intervint Patrick.
« Est-ce vrai, mon chéri ? »
fit-elle en se penchant vers Benji. Il inclina imperceptiblement la tête puis demanda « les yeux brillants de larmes.
« Un débile, c'est quoi ?»
Elle le prit par les épaules.
« Ce mot ne désigne rien de précis. Les gens utilisent de tels termes sans réfléchir. Ils ont dit cela parce que quelque chose les bouleversait et qu'ils ne te comprenaient pas. Qu'avais-tu fait ?»«
J'ai seulement dit au monsieur que les cheveux jaunes de sa femme étaient jolis. »
Nicole attendit que Benji se fût calmé pour aller embrasser Patrick.
« Et pour toi, ça s'est bien passé ?»«
Ouais, sauf dans le parc, »
dit-il avant d'esquisser un semblant de sourire.
« Des garçons qui jouaient au basket m'ont proposé de me joindre à eux et j'ai été lamentable. Ils ont bien ri. »
Elle l'étreignit avec tendresse.
« Patrick est moins vulnérable. » Mais il a lui aussi besoin de mon soutien,
se dit-elle en regagnant sa chambre.
N'ai-je pas tort de me sentir responsable de tout ici? Je voudrais que le nouvel Éden prenne un bon départ. Mais j'ai des obligations plus grandes envers mes enfants. Pourrais-je trouver un jour le juste équilibre?
Richard ne dormait pas et elle lui raconta les déboires de Benji.
Je regrette de ne pas avoir pu l'aider, dit son mari.
Il y a des choses que seule une mère. Il n'acheva pas sa phrase, car Nicole s'était endormie. Il lui secoua le bras.
« Désolé, mais nous avons un autre problème dont nous devons absolument parler.
Elle se tourna et l'interrogea du regard.
Ça concerne Cathy, précisa-t-il.
Et le bal qui aura lieu demain soir pour permettre aux jeunes de faire plus ample connaissance.
La semaine dernière, nous avons dit à Cathy qu'elle pourrait y aller avec Patrick, à condition de ne pas rentrer à une heure indue. Mais ce soir, je l'ai vue prendre des poses devant son miroir, vêtue d'une jupe très courte et provocante. Quand je lui ai déclaré que cette tenue était indécente, elle s'est mise en colère et m'a reproché d'épier tous ses faits et gestes, avant de me lancer que j'ignorais tout de la dernière mode.
Quelle a été ta réaction ?
Je l'ai naturellement remise à sa place. Elle m'a foudroyé du regard, puis est sortie sans dire un mot. Nous avons dîné sans elle et elle est rentrée moins d'une demi-heure avant toi, en puant le tabac et la bière. Quand j'ai voulu lui en parler, elle m'a crié « Fiche-moi la paix !» et est allée s'enfermer dans sa chambre.
C'est ce que je redoutais,
pensa Nicole.
Tout l'annonçait depuis sa plus tendre enfance. Cathy est intelligente, mais aussi égoïste et emportée.
J'allais lui interdire de se rendre à ce bal quand j'ai brusquement pris conscience qu'elle était désormais une adulte, ajoutait Richard. Sur sa fiche administrative, elle a 24 ans. Nous ne pouvons plus la traiter comme une enfant.
Mais elle a 10 ans de moins d'âge mental, se dit Nicole.
Elle se rappela une journée passée avec Cathy à l'hôpital, une semaine avant l'arrivée des colons de la Niña. Sa fille avait été fascinée par le matériel médical, mais lorsqu'elle lui avait suggéré de travailler dans cet établissement en attendant le début des cours de l'université, Cathy avait rétorqué
« Tu plaisantes ? Je ne tiens pas à crever d'ennui, pas quand j'aurai des centaines de gens à rencontrer. »
Nous ne pouvons rien faire, hormis nous inquiéter pour elle et lui donner notre amour. Il y a longtemps qu'elle a décidé de ne tenir aucun compte de ce que la vie s'est chargée de nous apprendre.
Elle se pencha pour embrasser Richard.
Je lui parlerai, mais je doute que ça serve à quelque chose.
Assis sur une chaise pliante contre le mur du gymnase, Patrick but une gorgée de soda, puis jeta un coup d'œil à sa montre. La musique lente mourut et les couples s'immobilisèrent sur la piste de danse. Cathy et Olaf Larsen, un grand Suédois dont le père appartenait au QG de Macmillan, échangèrent un baiser avant de se diriger vers lui en se tenant par le bras.
« On va sortir fumer une cigarette et boire un whisky »,
annonça Cathy.
« Tu viens avec nous ?»«
Il est tard »,
fit remarquer Patrick.
Nous avions promis de rentrer à 00h30.
Olaf lui tapota le dos avec condescendance.
Détends-toi, petit. Ta sœur et moi, on passe du bon temps.
Olaf avait trop bu. L'alcool et la danse empourpraient son visage. Il tendit le doigt pour désigner l'autre côté de la salle.
Tu vois cette rouquine avec une robe blanche et des gros nichons? Elle s'appelle Bess, et c'est un sacré numéro. Elle n'attend qu'une chose. Que tu l'invites. Tu veux que je me charge des présentations ?
Patrick secoua la tête.
Écoute, Cathy, faut rentrer. Ça fait, accorde-moi une demi-heure. Je sors un moment, je fais deux danses et ensuite on file à la maison. D'accord ?
Elle déposa un baiser sur la joue de son frère, puis s'éloigna vers la porte en compagnie d'Olaf. Une musique rapide débuta. Et Patrick s'intéressa au couple qui se déhanchait.
« Tu danses pas ?»
lui demanda un jeune homme.
« Non, à vrai dire, j'ai jamais essayé. »
Son interlocuteur le dévisagea puis sourit.
« J'ai pigé. T'es un Wakefield. Moi, c'est Brian Walsh. Je viens de Wisconsin, un état du centre des États-Unis. Mes parents sont chargés de tout organiser à l'université. »
Patrick n'avait pas dû échanger plus de deux paroles avec d'autres jeunes gens que Cathy depuis le début de la soirée. Il fut heureux de serrer la main de Brian Walsh, puis de bavarder avec lui quelques minutes. Brian terminait des études d'informatique quand la candidature de sa famille avait été retenue. Il avait 20 ans, était fils unique et s'intéressait aux expériences vécues par les Wakefield.
Dis-moi, ce point nodal n'est pas un canular inventé par la SI?
Il existe vraiment. Mon père dit que c'est une station extraterrestre de traitement de données.
Brian éclata de rire.
Il y a donc dans les parages de Sirius un énorme triangle qu'une espèce super intelligente a construit dans le but de dresser un répertoire des créatures qui voyagent dans l'espace? Waouh! C'est le truc le plus dingue que j'ai jamais entendu. En fait, presque tout ce que nous a dit ta mère était difficile à croire. Mais j'admets que Rama et ses biotes apportent du poids à ses déclarations. Tout est vrai. Et elle a passé sous silence des trucs plus incroyables encore. Sa conversation avec cette anguille qui utilisait des torrents de bulles pour s'exprimer, par exemple.
Il se souvint des mises en garde de sa mère et s'interrompit.
Une anguille? Comment ont-elles pu se comprendre?
Patrick jeta un coup d'œil à sa montre.
Excuse-moi, Brian, mais je dois aller récupérer ma sœur. Tu parles de la fille qui porte une jupe pas plus large que sa ceinture?
Patrick hocha la tête et Brian le prit par les épaules.
Laisse-moi te donner un conseil. Tu devrais l'avertir qu'à cause de son comportement, tous racontent que c'est une fille facile.
C'est la première fois qu'elle rencontre des garçons qui ne font pas partie de sa famille,
rétorqua Patrick sur la défensive.
Je voulais pas t'offenser, et c'est pas mon affaire après tout. Dis, on pourrait se revoir. J'ai vraiment apprécié notre conversation.
Patrick le salua et se dirigea vers la porte. Où était passée Cathy? Pourquoi n'était-elle pas revenue? Il reconnut ses rires sitôt qu'il fut à l'extérieur. Elle se trouvait sur le terrain de sport en compagnie de trois garçons, dont Olaf Larsen. Il fumait et se passait une bouteille.
« Alors, tu préfères être dessus ou dessous ?»
lui demandait un grand brun moustachu.
« Dessus, voyons »
fit-elle en riant avant de boire une gorgée d'alcool.
« Tu vois, Andrew, ça me permet de dominer la situation. »«
Je suis partant »,
lui répondit Andrew en collant une main sur ses fesses. Elle le repoussa puis remarqua son frère.
« Viens nous rejoindre. Le machin que nous buvons, c'est de la dynamite !»
Ses amis reculèrent en voyant Patrick approcher. Bien que maigre et peu musclé, il était grand et la semi-pénombre lui donnait une silhouette imposante.
« Je rentre »,
dit-il en repoussant la bouteille qu'elle lui tendait.
« Et tu devrais en faire autant. »
« Je ne savais pas que tu avais un chaperon »,
se moqua Andrew. Les yeux de Cathy brillèrent de colère. Elle but une dernière rasade, rendit l'alcool à Olaf, puis agrippa Andrew et l'embrassa avec fougue en se collant lascivement à lui. Les deux autres membres du trio crièrent et sifflèrent. Finalement, Cathy s'écarta.
« On peut y aller, Patrick »
dit-elle, sans quitter des yeux l'homme qu'elle venait d'embrasser avec tant de passion.
« Ça suffira pour ce soir. »